Faux salutation. Faux veut dire bonjour en langue zarma. Mais faut-il le savoir? Faut-il vouloir le savoir? Parler, échanger, aller vers l'autre, avoir dans sa tête des désirs de sar.
De vive voix.
Pascal Paradou.
Sahara est le dernier mot du nouveau roman de Marie Darrieussecq, La mer à l'envers, un voyage de la Méditerranée au contrefort des Pyrénées, où l'histoire d'une rencontre entre Rose, psychologue et mère de famille, et Younes, jeune Nigérien, naufragé et migrant. Fofo, Marie Darrieussecq.
Fofo, Pascal.
Que savez-vous du Sahara?
Je ne sais pas grand-chose du Sahara. Je suis allée au Niger. Je salue mes quelques amis à Niamey en ce moment, s'ils m'écoutent. Mais à l'époque où je suis allée à Niamey, c'était très déconseillé de s'embarquer pour le Sahara. C'était peu de temps après l'affaire des otages d'Arlit, etc. J'étais très frustrée de ne pas voir les dunes. Et d'autant que là-bas, à Niamey, mes copains me disaient « Mais va à Arlit, il y a ma grand-mère à Arlit, avec ma grand-mère tu risques rien, etc. » Bon, il y avait c'était un peu compliqué comme dialogue, parfois. Ma perception du danger n'était pas la leur. Mais le Sahara, ça commence pour moi au Pays Basque, il y a donc plusieurs années, quand j'étais petite fille. Et que ma grand-mère, là aussi, m'avait dit que le vent du Sud, avec ses petites paillettes rouges qui tombaient sur les vitres et qu'elle est poussetée, que ce vent était chargé de grains de sable du Sahara. Pendant des années, j'ai cru que comme beaucoup de choses qu'elle me racontait, c'était de la légende personnelle, qu'elle rêvait. Et puis non, c'était vrai en fait. Et les pistes de ski dans les Pyrénées se couvrent une fois par an de paillettes rouges, comme ça, de sable du Sahara. Et je trouve ça extraordinairement poétique et juste que la géographie et le vent nous ramènent au fait qu'on est proche et que tout ça est contigu, qu'on habite la même planète.
C'est d'ailleurs la dernière phrase de votre livre. Et au matin, la terrasse face aux Pyrénées est couverte d'un voile rouge de sable du Sahara. Alors cela peut surprendre de commencer le récit d'un roman par la fin. Mais d'abord, personnellement, moi je regarde souvent, voire toujours, les dernières phrases d'un livre avant de l'acheter. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Mais surtout, je trouve qu'il y a dans votre roman, dans cette dernière phrase, le cœur même du livre, c'est-à-dire à la fois ce rapprochement géographique et psychique, c'est bien là le sujet de ce roman, La mer à l'envers.
Oui, vous avez raison, on peut le dire comme ça, psychique, parce que Rose, ma narratrice, qui est une Parisienne de la classe moyenne, un peu laminée économiquement par Paris, très fatiguée par la vie, une certaine vie parisienne, en gros, elle n'arrive plus à payer son loyer, elle n'est pas prête du tout, elle ne se sent pas du tout concernée par ce qu'on appelle, à mauvais escient d'ailleurs à mon avis, la crise migratoire. Elle ne se sent pas concernée, elle mène sa vie, qui est déjà une vie difficile, avec deux enfants pas faciles, un mari alcoolique, enfin. Et puis un jour, par un hasard géographique justement, elle entre en contact, vous avez raison, psychique je crois, avec un jeune homme qui tente la traversée. Ça se passe en croisière à Méditerranée. Et il se passe quelque chose entre eux d'assez... d'à la fois très logique, parce qu'il ressemble à son fils, parce qu'elle a pour lui une sorte d'instinct maternel, et puis de très irrationnel, comme ça se passe souvent entre les gens, une rencontre.
Et la dernière phrase du roman raconte cette rencontre entre les Pyrénées de l'enfance et le Sahara de ce jeune homme et les dunes. De l'importance des dernières phrases dans un roman, elle s'écrit en dernier?
Ah, les dernières phrases, je ne les ai jamais, c'est-à-dire j'ai la première phrase, il faut bien à un moment... Même si parfois c'est la dixième et puis qu'on coupe les premières, bon ben voilà, ça démarre. Et puis j'avance. Je sais vers où je vais, je sais ce que j'ai à raconter, même si je n'ai pas de plan. Mais un jour, plusieurs mois après, parfois plusieurs années, arrive la dernière phrase et je savais pas que c'était celle-là. Et je sais que c'est la dernière parce qu'elle sonne. Enfin, comme en jazz, il y a un rythme paf, qui tombe juste. Et ça s'est à nouveau passé comme ça pour ce livre. J'avais pas prévu cette dernière phrase-là.
Et le titre, La mer à l'envers.
Alors le titre, je l'ai eu...
C'est assez énigmatique quand même.
Oui, volontairement énigmatique.
Et très géographique, là encore.
Contrairement à plusieurs de mes romans, je n'ai pas eu le titre au début, pour une fois. Je l'ai eu vers le milieu. J'ai beaucoup ramé, pardon pour ce jeu de mots débile, mais ça me vient comme ça. J'ai beaucoup galéré pour écrire ce livre. J'étais plantée au milieu, c'était rare. Normalement, j'écris assez facilement. J'avais pas le titre, je crois que c'était aussi symptomatique. Et puis quand j'ai eu le titre, ça a été mieux. J'ai voulu savoir ce qu'il y avait dans ce titre. Et c'est à la fois le monde à l'envers, c'est la Méditerranée à l'envers, parce que décidément, cette pauvre mère, elle vit des choses terribles. Elle est peut-être témoin avec ses yeux maritimes, quoi, de tous ces gens dont on n'a même pas le nom, enfin qui se noient. Et c'est quand même le monde à l'envers. Et puis beaucoup de lecteurs et de lectrices me disent la mère. C'est aussi un livre maternel. Et même si j'y avais pas pensé, pourtant, hein, j'ai été psy, mais j'accepte le jeu de mots. C'est bien de le voir comme ça aussi.
Et puis c'est toujours intéressant d'avoir un titre un peu mystérieux,
oui,
qui ouvre et qui ne referme pas,
qui ne réduit pas. Oui, au fond, finalement, beaucoup de mes titres sont comme ça, je crois, et c'est très bien. Ils portent plusieurs sens du livre, c'est bien.
À l'affiche de Vive Voix, le nouveau roman de Marie Darrieussecq et le nouvel album posthume de Rachid Tahar.
Et je suis africain du nord au sud. Et je suis africain, dedans comme dehors. Et je suis africain, et je n'ai pas le rythme dans la peau. Je suis africain, un albinos afro.
Je suis africain, Rachid Tahar sur RFI. Marie Darrieussecq, est-ce que vous pourriez dire la même chose? Je suis africaine.
Non, non, non. Je suis basque, je suis française, je suis européenne, mais j'ai un fort tropisme africain, comme on dit. Il y a des gens qui tombent dans l'Inde, d'autres qui tombent dans l'Amérique du Sud. J'ai eu un moment d'Amérique latine.
Mais pourquoi vous êtes tombée dans l'Afrique?
Par le français, tout simplement. Notre trésor de guerre, comme disent les Camerounais. Cette magie de pouvoir aller si loin et d'avoir une familiarité dans la langue, et puis cette façon d'inventer un français qui est merveilleuse, et puis le golfe de Guinée, c'est-à-dire cette mer. Le golfe de Guinée a vraiment des points communs avec le golfe de Gascogne au fond duquel je suis née. J'avais une étrange familiarité comme ça, quelque chose de qui me venait facilement quand j'étais là-bas. J'aimais beaucoup être là-bas.
Alors si l'on raconte un peu votre roman La mer à l'envers, au début, Rose, qui est un peu vous, Goyenech, oui, elle s'appelle, oui, donc elle est bien basque, n'a rien à voir avec l'Afrique. Elle est psychologue, elle a des interrogations conjugales, elle fait une croisière avec ses enfants, elle n'a rien d'une militante et n'adhère à aucune association qui viendra en aide aux migrants. Et puis il y a cette... c'est pas vraiment une collision, mais c'est au moins une collision narrative entre le paquebot dans lequel, sur lequel elle est, et ce bateau de migrants.
Oui, ça c'est vraiment...
C'est le choc.
Ouais, c'est vraiment né d'une expérience. J'ai fait une croisière, je l'avoue, dans ces terribles paquebots qui sont injustifiables aujourd'hui, hein, écologiquement, politiquement. Enfin, c'est des espèces de sommets du capitalisme le plus désinhibé. Godard l'avait très bien filmé dans Film Socialisme, il y a maintenant plusieurs années. Et j'étais à bord de ces paquebots et tout à coup on est passé au large de Lampedusa. C'était en 2012. Et en 2012, Lampedusa, c'était le nom de tout ça, de ce qui nous arrivait, de cette dite crise migratoire. Et je me suis dit, où est la barque? Où est la barque? J'ai eu une espèce de flash de compréhension que c'était vraiment le même espace géographique et que c'était complètement absurde que la planète soit coupée en deux à ce point. Que moi, j'ai des papiers, des passeports, que je puisse monter sur cette gabégie de nourriture et qu'il puisse y avoir, là, dans le même espace maritime, des gens qui n'ont pas de papiers dont le seul avenir est de traverser cette mer comme ils peuvent.
Vous avez eu un flash dans le roman. Rose, c'est plus qu'un flash, puisque des migrants montent à bord, sont recueillis à bord du paquebot. Et parmi ces migrants, il y a Younes. Alors vous disiez, ces hommes n'ont pas de nom. Il a un nom. Younes, je ne sais pas comment vous l'avez choisi. Rose souvent se trompe, elle l'appelle Youssef. Oui. Mais finalement, il s'appelle Younes. Pourquoi elle s'intéresse à lui? À lui plus qu'à un autre?
C'est ce hasard des rencontres. Ce n'est pas une rencontre amoureuse. À un moment, ça aurait pu. J'aurais pu partir par là. Mais au fond, j'avais déjà beaucoup parlé de la rencontre amoureuse dans d'autres de mes romans. Là, j'avais envie d'une rencontre maternelle. Elle reconnaît ce jeune garçon. C'est quelqu'un qui a 16, 18 ans, on ne sait pas trop. Et elle le reconnaît. Il pourrait être son fils. C'est vraiment cette phrase-là qui est une phrase de mère, quoi. Il ressemble à son fils. Il n'a pas le même teint de peau, mais il a les mêmes traits. Il est un peu maigrichon, tout grand. Comme ça, un peu maladroit, sauf qu'il n'a pas du tout le même destin. Et puis il a soif, enfin, c'est cette chose universelle, et il lui demande de l'eau, et elle est infichue de lui trouver de l'eau, alors que le paquebot regorge de soda, d'alcool, de café, etc. Elles se sont complètement désemparées, et donc elles le laissent, enfin, ce sont les gens du bord, et le capitaine en particulier, qui est un homme honorable, qui s'occupe de les recueillir. Donc, c'est arrivé deux fois dans l'histoire de ces paquebots, à ma connaissance, j'ai fait quelques recherches. Ça, ils doivent en croiser plein, forcément. C'est tellement le même espace maritime. Bon, bref. Donc, Younes. Pendant des mois, je n'arrivais pas à incarner ce jeune homme. J'avais parlé beaucoup, beaucoup avec de ces jeunes gens qui tentent l'aventure, que ce soit à Niamey ou que ce soit à Calais, où j'en ai trouvé d'autres plus tard, Porte de la Chapelle, à Paris, etc. Et puis, à Bayonne aussi, maintenant, mon pays natal. C'est devenu un lieu de passage, maintenant. J'arrivais pas à l'incarner. Soit je le fabriquais avec plein de témoignages et ça devenait une sorte de pantin, soit j'en prenais un seul au détriment des autres. J'avais un problème à la fois éthique et esthétique, quoi. Morale. Au sens où la morale, c'est aussi la littérature, quoi. C'est la beauté, c'est le rythme des phrases. Et puis j'ai pensé à Jonas, le Jonas de la baleine, Jonas est recraché sur le rivage. C'est pas Ulysse, c'est Jonas, le mythe, à mon avis, pour les migrants. Et Jonas, bah, c'est Younes en arabe. À partir du moment où j'avais son prénom, et un peu plus tard son nom, Younes Aboussa, et ben j'avais le roman, en fait.
Et c'est important de lui donner un nom.
Ah oui, c'est fondamental. Le carré des anonymes, comme on l'appelle, au cimetière de Calais, où je suis allée me recueillir. Je suis athée, mais j'avais besoin d'aller là et de penser à tous ces gens qui sont sous la terre, là, dans cette terre... qu'ils ont atteinte malgré tout et qui n'ont pas de nom, c'est déchirant. Enfin, c'est donc oui, si on peut redonner des noms, enfin même un nom fictif, mais ce Younes Aboussa, il est aussi là pour tous ces gens qui n'avaient pas de nom, voilà.
Et donc Rose va donner à boire à ce jeune Younes, mais surtout elle va lui donner le téléphone de son fils.
La catastrophe, en quelque sorte.
La catastrophe, et en même temps, c'est le geste qui lie. C'est là où ils deviennent humains tous les deux, en fait.
Oui, absolument. Non, je ris en disant catastrophe, parce qu'elle lui donne le téléphone de son fils à elle.
Pour le fils, c'est une catastrophe, il est privé de téléphone.
Il a 15 ans, et c'est vraiment sa vie, quoi, ce téléphone. Bon, j'espère aussi que c'est un roman qui est un peu une comédie. Et puis, elle n'a pas idée de donner son propre téléphone, hein, Rose. Elle a aussi une forme d'égoïsme qui m'est assez sympathique. Enfin, c'est pas une sainte. Et puis, à partir de là, elle lui donne tout. Elle lui donne le code, la puce, etc. Tous ces gamins avec qui j'ai parlé, qui tentaient l'aventure, leur téléphone, c'est vraiment leur vie, quoi. Ils ont pas de papier, mais ils ont un téléphone. Et quand ils le perdent, c'est une absolue catastrophe. Donc, elle se rend pas compte aussi qu'elle lui donne la possibilité, tout simplement, qu'il la joigne. Voilà. Il suffit qu'il appuie sur maman, justement, puisque c'est le téléphone de son fils. Et à partir de là, le roman, à sa propre dynamique. C'est devenu... il y avait une grande évidence après à l'écrire.
Mais un geste ou un mot parfois peuvent suffire comme cela pour, je ne vais pas dire sauver une vie, mais...
Je ne suis pas loin de le penser.
Elle le sauve d'une certaine façon. Oui. Et elle se sauve peut-être aussi un peu de son confort petit bourgeois et de son indifférence au monde.
Oui, de sa crise conjugale. On parle de crise migratoire, mais qu'est-ce que c'est une crise migratoire? Alors que les crises conjugales, on connaît tous. Ça, on sait vraiment ce que c'est. Et non, elle... À Calais, les bénévoles à qui j'ai pu parler, c'est pas des petits riens qu'ils font. Il y a cette phrase de Derrida qui est merveilleuse, qui dit l'hospitalité, c'est l'improvisation. Ah, ça m'a scotché quand j'ai entendu cette phrase, parce que c'est vraiment ça. À partir du moment où on accepte ça, d'être hospitalier, on sait pas ce qui va se passer. C'est l'imprévu tous les jours. Et j'ai vu à Calais des gens improviser avec génie. C'est au-delà de la générosité, je trouve que c'est du génie, quoi. Et oui, évidemment, ils font plus que des petits gestes. Mais eux, ça donne un sens à leur vie extraordinaire aussi. Ils s'en cachent pas, d'ailleurs.
C'est le cas avec Rose.
Finalement, oui.
Ça la transforme pas complètement.
Non. Je voulais vraiment pas écrire le roman de la bonne âme. De la bonne âme qui sauve le monde. Je saurais pas l'écrire, d'ailleurs. Et on n'écrit pas les romans avec des bons sentiments. On les écrit pas non plus avec des mauvais. Je crois pas. Et moi, je préfère les bons sentiments aux mauvais, en fait. Donc, elle est pétrie de contradictions, mais finalement, c'est plutôt une chic fille.
Ouais, je suis d'accord. Alors, un autre écrivain, en cette rentrée littéraire, évoque cette question de la migration, la crise migratoire, comme l'on dit, mais d'un tout autre point de vue, en racontant l'histoire de trois migrantes. C'est Louis-Philippe d'Alembert qui était récemment dans l'émission pour parler de son roman « Mur Méditerranée ».
La littérature apporte une autre dimension, je veux dire, à ce phénomène qui est d'une très grande ampleur et qui ne concerne pas que l'Afrique et l'Europe. Hein. Il suffit de regarder, par exemple, ce qui se passe en Amérique du Nord. Hein. Tous les gens d'Amérique centrale qui arrivent aux portes des États-Unis via Mexique. Et donc, la littérature essaye de le placer, j'ai envie de dire, dans une autre dimension. C'est-à-dire qu'il ne soit pas que la dimension de l'actualité, en fait. C'est déjà leur donner vie. Donc, l'idée, c'était d'incarner ce qu'on appelle les migrants, et que de mon temps, de mon époque, fin des années 70, années 80, on appelait plutôt les boat people. Donc c'est le même phénomène, c'est les mêmes causes en fait qui produisent les mêmes effets. Et moi, mon travail d'écrivain, c'était justement de les incarner, de leur donner vie, et donc de prendre l'histoire, comme vous l'avez dit, de trois femmes et trois individus, donc avec trois histoires différentes, avec trois rêves différents et trois raisons, trois causes de départ aussi différentes.
Marie Dariussec, vous assignez à la littérature ce rôle d'incarnation évoqué par Louis-Philippe d'Alembert.
Oui, oui, d'incarnation et d'identification. J'étais aussi bloquée dans ce livre parce que, c'était symptomatique, mon blocage. On les appelle les migrants, mais ça va pas du tout, ce mot. D'ailleurs, migrant est un mot qui est en train de tomber en désuétude. Réfugiés, demandeurs d'asile. J'aime bien l'idée des aventuriers. C'est quelle aventure, quand même. Ceux qui arrivent jusqu'à Calais, ils ont leurs yeux brillent. Enfin, ils ont accompli un exploit. Ils
Vous
ont toutes sortes de noms.
Ils partaient à l'aventure, ils allaient à l'avenir.
Oui, il allait à l'avenir.
Pour cette seule phrase, je pense qu'on peut adorer ce livre.
Merci. Mais à Niamey, quand je discutais aussi avec des gens qui avaient tenté cette aventure, qui étaient revenus dans des conditions plus ou moins terribles, mais certains, c'était pas tous des victimes, quoi, loin de là. Il y avait aussi, ils me disaient ces choses si simples, qu'ils avaient envie de voir du pays, tout simplement. Et comme ils n'ont pas de visa, et comme ils n'ont pas de sous, eh ben, ils tentent de voir du pays avec les moyens du bord. Et je trouvais ça admirable et tellement compréhensible. Et non, mais pour revenir à cette histoire de mots, quand il n'y a pas de mots, typiquement les migrants, quand on ne sait pas nommer un phénomène qui nous concerne tellement tous, je crois que la littérature doit absolument s'en occuper. Enfin, vraiment prendre ce silence, cette absence de mots en charge. Et Louis-Philippe d'Alembert l'a très bien fait avec trois femmes. C'est presque un autre sujet, hein, la situation des femmes dans la migration, elle est catastrophique. Les jeunes gens, pour des tas de raisons sociologiques, culturelles, etc., ils réchappent un petit peu mieux, souvent, même si c'est pas la joie. Hein. Mais à Calais, j'ai vraiment vu, pour le coup, des héros de l'aventure. Quoi.
Mais c'est l'actualité qui vous a imposé ce sujet et ce roman ?
Oui, j'avais pas le choix. Je vois même pas comment on peut écrire sur autre chose, en fait. Alors, comme je n'y arrivais pas, j'ai de facto écrit sur autre chose. J'ai écrit en particulier Notre vie dans les forêts, mais qui est vraiment née de Calais aussi. C'est l'histoire d'une réfugiée dans une forêt, Notre vie dans les forêts.
C'était le précédent roman.
Ouais, cette femme devant un bras zéro, sous une bâche. C'était un roman de science-fiction parce que aussi ce que j'avais vu à Calais me semblait irréel, alors que c'était absolument réel. L'expérience de Calais, pour moi, elle est plus...
Mais comment vous retrouvez à Calais?
Calais, j'aurais dû y aller depuis des années, mais c'est Arte qui a fini par m'y envoyer un reportage. Alors j'avais une espèce comme ça de but, de prétexte. J'arrivais pas à y aller toute seule, alors que j'aurais dû pour écrire ce roman. Une fois que je suis revenue de Calais, j'avais plus qu'à l'écrire, voilà.
Et en même temps, ça a pris...
5 ans en tout.
5 ans en tout.
Ce qui est beaucoup
dans mon cas. Ce qui est énorme. Alors, qu'est-ce qui bloquait? Donc, vous l'avez un peu dit, ce personnage, il fallait lui trouver un prénom, il fallait trouver sa dimension à la fois d'incarnation et d'universalité, mais est-ce que c'était tout?
Après, ce qui bloquait aussi, c'est que je n'ai pas de solution. Comme citoyenne, j'ai fait mes petites actions, j'ai fait ce que j'ai pu, quoi, mais qui n'est pas beaucoup. Comme écrivaine, il a fallu que je renonce à apporter une solution à tout ça. Il a fallu que j'accepte d'exposer notre désarroi. Mais je voulais aussi que ce ne soit pas fermé, qu'il y ait de l'espoir quand même, sans être béni oui-oui, quoi, sans être... Donc c'était très difficile à trouver le ton du livre aussi.
Mais vous vous sentez coupable, comme Rose se sent coupable dans le livre, même si elle s'imagine au bas de l'échelle des coupables?
Non, enfin moi ce qui me sauve de la culpabilité, c'est l'écriture, j'ai cette chance énorme. En fait, je sais pas comment font les gens qui n'écrivent pas, qui sont quand même la majorité après tout, parce que moi ça donne du sens quand même, je me dépatouille avec le sens et je le propose aux lecteurs et aux lectrices, et ça me sauve de la culpabilité, enfin j'en ai rien à faire de la culpabilité pour le coup.
Mais c'est un roman sur la vie de toute façon,
oui, c'est
sur
très...
comment être vivant.
Oui,
en 2019.
C'est un roman très vivant et la fin du livre est très ouverte. Et c'est un roman, pour dire cette expression, c'est un roman qui la pêche quand même, malgré tout.
Marie Dariussecq, exercice pratique. Est-ce que vous acceptez de lire quelques lignes? Alors, c'est page 203, on est plutôt vers la fin du roman. Rose Goyeneche a donc recueilli Younes, elle l'a soigné, car il s'est fait mal aux jambes justement à Calais. Et elle le retrouve dans sa maison, dans le Pays Basque, après une journée de travail, avec ses patients.
Les patients partis, elle entend taper les béquilles jusque sur la terrasse et il s'assied là, à son poste préféré, devant la piscine et les Pyrénées. Écouteurs sur les oreilles, il secoue la tête et les pieds en rythme. Il est comme un passager à l'escale. Elle aurait voulu prendre sa vie en main, faire pour lui sa demande d'asile, écrire son récit à l'OFPRA. Elle s'est renseignée, elle a contacté l'antenne locale du Secours catholique et France Terre d'Asile. Elle a potassé les droits des mineurs isolés. Elle est super au point. Les mesures osseuses ne disent rien, datent des années 30 de sinistre mémoire. Alors, elle aurait aimé organiser son avenir mieux que par ses chevilles, l'aider à passer les frontières autrement. « Mais tu m'aides ?» insiste-t-il. Sa jeune main est posée sur son épaule comme un oiseau. Il fait un pas, deux pas, trois pas. Il se détache. Il avance main ouverte en funambule. Il est debout sur la terre. Elle voudrait lui insuffler plus que le sens retrouvé de la marche. Elle voudrait lui transmettre le pouvoir de suivre les méridiens qu'il choisirait.
Marie Dariussecq, extrait de La mer à l'envers, votre nouveau roman, c'est à la fois concret et lyrique.
Oui,
Le passage qu'on a lu, mais c'est un peu vrai sur l'ensemble du roman.
Je crois que tout le roman est comme ça. C'est un peu mon style en fait. C'est-à-dire, j'aime autant parler de réfrigérateur en panne, d'appartement trop petit, de mètres carrés trop chers, d'agent immobilier alcoolique et de moments où ça décolle, de moments où malgré tout ce bazar de la vie quotidienne, quelque chose nous appelle ailleurs. Voilà. Je crois que j'écris vraiment là-dessus.
Et vous écrivez sans vous soucier d'une certaine façon du bien écrire, parce que vous pouvez tout aussi bien décrire une séance de Pilates, c'est le cas dans le roman, ou raconter comment on fait le Parthénon, qui est quand même l'expression la plus laide que l'on connaisse, faire le Parthénon, faire le Sahara, et puis avoir des envolées généreuses, humaines, pour parcourir les méridiens justement.
Oui, on est fait de ça. Et puis la poésie immédiate de la géographie m'aide beaucoup. J'écris énormément. J'ai un globe terrestre sur mon bureau, un petit globe, et puis j'ai les atlas, et puis j'ai Google Earth, et je me promène énormément dans les cartes, dans la forme des fleuves, le découpé des frontières en Afrique. Dieu sait qu'il y aurait des choses à en dire. Toute cette façon qu'a la géographie d'être à la fois malmenée et de nous dire des choses, d'insister. D'une certaine façon, la géographie naturelle insiste pour nous dire qu'il y a des méridiens à suivre, je crois. Voilà. C'est immédiatement poétique pour moi, mais c'est porteur de sens.
Mais la poésie passe par la matière avec vous, passe par le physique. Peu d'écrivains écrivent à ce point-là, je trouve, l'espace.
Ah oui, je suis vraiment une écrivaine de l'espace. Je pense que l'histoire, avec sa grande hache, comme disait Georges Perec, est survalorisée en Europe, en particulier en France. Il faut évidemment connaître l'histoire pour vivre au présent de façon pertinente. Mais il faut réinjecter de la forme des continents, quoi, de l'espace dans nos histoires. Et après, moi j'écris beaucoup à l'oreille, c'est-à-dire, vous dites, je ne me soucie pas de bien écrire, mais je me soucie du rythme.
Oui, quand je dis bien écrire, vous comprenez ce que je veux dire. C'est pas la plume académique. Il y a des choses, non pas bancales, mais il y a des choses un peu faciles, orales.
Oui, orales, oui. Mais si ça sonne bien à l'oreille, si le rythme y est, c'est que je suis juste. Mais c'est un travail énorme. Hein, c'est...
Alors, faire le Parthénon, vous voyez, ça, c'est pas possible pour moi. C'est là où je dis que c'est pas du bien écrit.
Du point de vue de la croisiériste, bah oui, elle fait le Parthénon. Et d'ailleurs, c'est l'enfer.
Comment vous passez, Marie Darrieussecq, d'un livre à l'autre ?
Avec logique, enfin avec ma propre logique, qui est peut-être un peu bizarre, mais d'abord il y a le corps des femmes, ça a toujours été là. J'ai pas fini de parler de ça, de comment on fabrique une femme. Et puis la mer, l'océan, les fantômes ou leur très grande proximité.
Alors il y en a très peu.
On est tout au bord.
On est tout au bord. Le fantôme, c'est une cariatide qui a disparu, c'est le téléphone, mais les fantômes sont toujours là.
Ils sont là, je sais très bien qu'ils sont là, ils m'accompagnent.
Tous vos livres, il y a le mot fantôme.
Il faudrait vérifier, mais à mon avis, oui, hein, vraiment. Oui, je suis prête à le croire, en tout cas. Non, c'est, je travaille toujours le même matériau imaginaire et très concret, comme vous dites, mais j'essaye des formes différentes, j'essaye de l'aborder de façon différente. Là, j'ai 50 ans, j'ai l'impression un peu d'un milieu de chemin et d'avoir encore tellement de livres à écrire pour continuer à explorer.
Mais vous cherchez parfois à vous dépayser?
Vous savez, j'ai beaucoup voyagé, on en avait déjà parlé, vous et moi. Je regardais les noms des villes là, sur les horloges que vous avez dans votre studio et j'ai eu la chance d'en faire beaucoup, on va dire ça.
Bah donc.
Mais justement, j'essaie de faire autrement. Je vais chercher des choses très précises quand je voyage. Et voilà, ça m'a beaucoup nourri, tous ces voyages.
Et la littérature, attention, question quasi sidérale. Est-ce que la littérature peut changer le monde ? Ou bien changer un homme ou une femme?
Alors, changer un homme ou une femme, j'en suis persuadée. Ça m'est arrivé, c'est arrivé à des gens autour de moi. Il y a des livres qui changent la vie, vraiment, qui rendent meilleur, qui ouvrent. J'ai des lecteurs ou des lectrices qui viennent me voir aussi avec ce message, quoi, que tel de mes livres a pas forcément changé leur vie, mais qu'il est resté là depuis toutes ces années, à côté de leur lit, et qu'ils y reviennent parce que ça les aide à vivre. Alors ça, déjà, c'est pas mal. Quant à changer la vie, tous les bons livres mis ensemble, ils ont quand même un effet. Ils nous rendent plus intelligents et meilleurs, je le crois vraiment.
Alors, je vous pose cette question parce que dans votre roman, à la fin, c'est plutôt une fin ouverte, en effet, pas tout à fait un happy end, mais oui, quand même, c'est un happy end en français dans le texte. Mmh. Vous écrivez, 10 ans après, donc, 10 ans après la croisière, c'est le monde qui aurait dû changer, pas ta vie.
Oui.
Pensée de Rose.
Oui, parce que Younes est très habité par une phrase qu'il répète presque comme un mantra. Tu dois changer ta vie. Tu dois changer ta vie. Il dit que c'est une phrase tirée de Star Wars. Et effectivement, elle est dans Star Wars. Il y a un Jedi qui dit ça à quelqu'un. Et Rose, qui a un peu de culture européenne, elle lui dit, mais pas du tout, c'est une phrase de Rilke. C'est aussi une phrase de Rilke. Je pense que les réalisateurs de Star Wars ont lu Rilke, tout simplement. Tu dois changer ta vie. Mais non, Younes, tous ces gens que j'ai vus au Niger, ils doivent pas changer leur vie. C'est le monde qui doit changer. Pour mieux les accueillir, pour mieux partager, tout simplement. Quand on voit, enfin, je vais pas vous refaire l'histoire, mais... L'inégalité, voilà, c'est ça qu'il faut changer.
Merci Marie Darrieussecq. Votre roman La mer à l'envers est à lire chez POL, roman dédié à votre éditeur d'ailleurs, Paul Tchaïkovski-Lorenz. De vive voix, Pascal Paradou, Véronique Durand, Guillaume Ploquin, à demain.